Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission de débat et d'information en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour cette dernière émission de la saison avant la coupure estivale, nous avons choisi d'aborder un sujet issu du résultat des élections législatives, à savoir la poussée historique du Rassemblement national qui atteint le chiffre également inédit de 89 députés et qui crée une situation politique où eh bien les oppositions sont plus nombreuses que l'ex-majorité présidentielle. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Sainte-Marie. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes sondeur, politologue et président de l'Institut Polling Vox, que vous avez de nombreuses fois l'occasion de vous exprimer sur cette poussée du Rassemblement National que vous avez mesurée. Alors peut-être juste, Jérôme, une question sur notamment les instituts de sondage. Globalement, cette poussée historique du mouvement de Marine Le Pen, elle a été légèrement sous-estimée ou pas, selon vous, avant les élections? Parce que assez peu, quand même, d'enquêtes donnaient le Rassemblement National presque à 100 députés, finalement.
Alors, il faut distinguer deux choses concernant le travail des instituts de sondage. La mesure des opinions, c'est-à-dire, en l'occurrence, la mesure des intentions de vote. Le travail des instituts de sondage, Polling Vox n'a pas publié de sondage pendant cette période-là, donc mon point de vue est vraiment objectif, je crois. Le travail des instituts de sondage, en termes de mesure des intentions de vote, a été relativement correct à la présidentielle, même si n'ont pas été exactement estimés les phénomènes de vote utile qui ont poussé le vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon ou en faveur de Marine Le Pen un peu plus haut que dans les derniers sondages publiés. Sur les intentions de vote aux élections législatives, ça allait également à peu près. En fait, on ne peut véritablement travailler que sur les résultats du premier tour, puisque là, l'ensemble des Français sont concernés. Pour le second tour, c'est un peu moins vrai, parce que vous avez quelques circonscriptions, très peu, 5 je crois, où le résultat a été acquis dès le premier tour, mais vous avez surtout beaucoup de circonscriptions avec des situations différentes. Et c'est là où le travail des instituts de sondage a un peu péché, c'est au niveau de la technique dite des projections en siège. On prend les intentions de vote, on a l'historique des votes dans les 577 circonscriptions, et il y a des matrices de projection. C'est toujours très difficile à faire, même à l'époque où il y avait un simple clivage gauche-droite. Désormais que la situation politique est très compliquée, où il y a toutes sortes de situations possibles dans les seconds tours, le travail est moins efficace, et de fait, le score en termes de nombre de députés du Rassemblement National a été globalement très sous-estimé, de l'ordre de la moitié en fait.
Alors, c'est vrai que c'est une des surprises du second tour de ces élections législatives. Mais vous, finalement, vous n'êtes pas tellement surpris parce que vous avez analysé, écrit autour de la question du bloc élitaire incarné par le président de la République face à un bloc populaire. Et ce que vous expliquez finalement, c'est que l'électorat populaire, il est plutôt du côté du Rassemblement National que de l'ANUP, par exemple.
Oui, alors il faut être très prudent. Il est très clair que autour d'Emmanuel Macron, c'est le bloc élitaire, c'est-à-dire c'est les cadres supérieurs, les retraités aisés. Plus on a de l'argent, plus on a du diplôme, plus on vote pour Emmanuel Macron ou pour son parti. C'est très régulier. Du côté des catégories populaires, là, il y a une forme de division. Vous avez quand même un score très important. Je vais prendre l'exemple de la présidentielle de Marine Le Pen, 36% au premier tour chez les ouvriers et chez les employés. Au second tour, face à Emmanuel Macron, parmi ceux qui sont allés voter, 57% des employés ont voté pour Marine Le Pen au second tour, 67% des ouvriers pour elle. Donc il n'y aurait que les CSP-, comme on dit, qui voteraient. Marine Le Pen aurait été élue haut la main. Cette réalité sociologique du vote Le Pen est de plus en plus affirmée. avec cependant un petit problème pour elle, c'est-à-dire qu'une partie quand même des ouvriers et des employés, de l'ordre de 25%, ont choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, et ensuite il y a indubitablement un vote populaire en faveur de la NUP. Si les 12 députés de la Seine-Saint-Denis sont 12 députés de la NUP, essentiellement de la France Insoumise, eh bien, c'est bien que c'est un département on ne peut plus populaire, même si l'abstention a été massive, il faut bien considérer qu'il y a ce vote populaire. Ce vote populaire, donc là, il y a une forme de division du vote populaire qu'on peut regretter d'ailleurs, mais qui est très lié à des phénomènes culturels, et notamment à des phénomènes liés à l'immigration, tout simplement. Mais c'est effectivement quelque chose, une recomposition du vote selon des critères culturels et pas seulement sociologiques, qui est une véritable, un grand handicap pour l'expression des classes populaires par rapport aux élites. Après, vous avez aussi une autre réalité dans la NUP, au niveau de la sphère militante. Là, on est beaucoup plus dans un vote que dans une sociologie que j'appellerais, pour prendre des termes un peu anciens, une sociologie petite bourgeoise, la petite bourgeoisie urbaine, assez jeune, des gens relativement diplômés mais n'ayant pas des revenus correspondant à leurs attentes et qui sont donc dans une situation assez critique par rapport à la société. Ça, c'est la sociologie militante de la France insoumise, mais le vote est en partie populaire.
Alors, sur les éléments d'analyse de cette poussée du Rassemblement national, est-ce que vous diriez que c'est quelque chose de conjoncturel ou bien est-ce que c'est parce que Marine Le Pen incarne de manière plus efficace l'opposition, ou encore est-ce que certains parlent de la fin du Front républicain et du fait que finalement, dans des seconds tours entre Rassemblement national ou Front national à l'époque, souvent les candidats du Front national ou du Rassemblement national étaient battus par une sorte de rassemblement et que cette fois-ci, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Alors après, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? C'est un petit peu des interrogations qu'on peut avoir.
La progression du vote Rassemblement national me paraît correspondre à un phénomène structurel. Tout d'abord, il y a un vote de classe qui s'est constitué autour de Marine Le Pen, sans avoir besoin de faire spécialement campagne. Elle rassemble spontanément un vote important dans le bassin minier du Nord, par exemple, mais pas seulement. Il y a toute une série de gens dans les salariés d'exécution, le public en quelque sorte des gilets jaunes, qui ont trouvé dans le vote Marine Le Pen, à tort ou à raison, c'est pas mon problème, eh bien, ont trouvé leur expression politique. Ils votent pour des gens comme eux quand ils votent pour les candidats du Rassemblement National. Et je précise d'ailleurs que, en termes de sociologie des candidats, ce sont les candidats qui appartiennent le plus au monde, justement, du salariat d'exécution, à ceux qui appartiennent le plus, en fait, au monde des ouvriers et des employés. C'est le Rassemblement National, un peu comme le Parti communiste autrefois. Vous avez également un effet de masse, c'est-à-dire que désormais que Marine Le Pen a atteint 42% pratiquement des suffrages exprimés au second tour de la présidentielle, ça veut dire que des millions et des millions de Français, presque 14 millions en l'occurrence, ont voté pour elle, et que donc les phénomènes de diabolisation ne peuvent pas fonctionner par définition chez les 42% de Français qui ont voté Marine Le Pen. Là aussi, on voit que le plafond de verre a largement volé en éclats. Et puis après, vous avez des phénomènes qui sont strictement politiques. Déjà, c'est considéré, d'après le dernier sondage Elabe, comme la principale force d'opposition. Et que donc, toute personne qui est critique par rapport à Emmanuel Macron se dit, peut être tentée de se dire, je vais aller vers la force d'opposition principale, tout simplement, quelle que soit son idéologie particulière. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous avez aussi des phénomènes politiques conjoncturels, à la marge, qui peuvent être liés à la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qui, entre l'élection présidentielle et des élections législatives, ont pas mal effrayé du côté des retraités, du côté des électeurs de la droite classique, qui, face à ce qu'ils considéraient, là aussi à tort ou à raison, comme une menace de prise de pouvoir d'accès au pouvoir de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, eh bien, sont allés voter pour les candidats du Rassemblement National, ou plus généralement se sont tout simplement abstenus, mais en tout cas n'ont pas fait barrage. Ça, c'est quelque chose qui va laisser des traces. Effectivement, il n'y a plus l'habitude de se mobiliser pour, comme on dit de manière un peu ridicule, faire barrage. Et ça, c'est quelque chose qui va rester. Et donc, je crois que la notion de plafond de verre existent de moins en moins et que ceux qui veulent combattre le Rassemblement national et Marine Le Pen devront le faire plus que jamais sur le terrain des idées et des programmes, mais non pas en convoquant une rhétorique qui est aujourd'hui un peu dépassée.
Alors, c'est ce que vous avez dit récemment. Vous avez dit il n'y a pas de plafond de verre pour Marine Le Pen. Oui. Est-ce à dire que finalement, elle pourrait accéder au pouvoir dans des conditions qui paraissaient assez peu probables il y a encore quelques années?
Oui, je crois que l'hypothèse de l'accès au pouvoir de Marine Le Pen est de plus en plus souvent posée, et pas seulement par moi. Vous avez tout simplement en 2017 34% pour Marine Le Pen au second tour. Cette fois-ci, c'est un peu moins de 42, c'est 41,4% je crois. Enfin, vous voyez l'ordre de grandeur. On se rapproche d'un score de second tour d'élection normale entre la gauche et la droite. Vous avez par ailleurs un désir d'alternance qui est assez important. Vous avez des sujets qui sont au cœur du projet du Rassemblement national qui mobilisent quand même beaucoup les Français. Et donc, vous avez effectivement cette possibilité théorique que Marine Le Pen puisse accéder au pouvoir. Désormais, il reste 5 ans avant la prochaine élection présidentielle. On imagine assez mal que le Rassemblement national puisse remporter les élections législatives, même s'il y avait une dissolution dans le cours du quinquennat. Quelle sera la situation en 2027? Peut-être que les phénomènes qui nourrissent le vote Rassemblement national, ne serait-ce que le sentiment d'un déclassement général du pays, eh bien, ces phénomènes peuvent s'accroître. Et ça peut profiter à Marine Le Pen si elle est de nouveau candidate. Vous savez, il faut être extrêmement prudent. Il y a un an à peu près, un peu moins d'ailleurs, a surgi un phénomène inattendu, le phénomène Zemmour, qui a largement rebattu les cartes pendant un mois de la campagne. Il y a 4 ans, il y a eu le phénomène des Gilets jaunes sur le terrain social, qui lui non plus n'était pas spécialement prévu. Il faut être extrêmement prudent. En tout cas, je ne dis pas du tout que Marine Le Pen va accéder au pouvoir, c'est simplement que cette notion de plafond de verre me paraît aujourd'hui obsolète.
Alors justement, dans les éléments d'analyse des résultats des élections législatives, on assiste à une fragmentation assez inédite de l'Assemblée nationale par rapport à des situations politiques comparables dans des années précédentes. Vous dites c'est plutôt la marque d'une crise politique et on voit aussi d'autres analystes, mais ça n'est peut-être pas contradictoire, dire eh bien au contraire c'est peut-être un élément de clarification et la constitution de la Ve République va faire ses preuves une fois de plus parce que c'est une constitution qui, contrairement à ce qu'on croit, avait été conçue justement pour affronter ce type de situation politique.
Alors les deux choses sont vraies. C'est vrai que la constitution de 1958 est installée, donc c'est Michel Debré pour le général de Gaulle qui coordonne les travaux des juristes, et c'est destiné à donner au gouvernement les moyens de composer avec une chambre de députés à l'époque qui est véritablement composite. Il n'y a pas encore de majorité gaulliste, par exemple, et donc les dispositions juridiques existent pour justement pouvoir rendre gouvernable une assemblée qui serait très dispersée. Ne serait-ce que l'utilisation, par exemple, de l'article 49.3. C'est vrai. Alors, une fois qu'on a dit cela, il y a deux choses. D'une part, le résultat des élections et le fait que les différentes forces politiques soient correctement représentées, on dirait presque la proportionnelle, en fait, hein, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est plutôt une bonne chose d'un point de vue démocratique. Les 10 principales forces d'opposition sont bien représentées, le gouvernement a une majorité relative, il est un peu d'ailleurs, comment dirais-je, il a bénéficié du mode de scrutin, mais dans des proportions raisonnables, et derrière cette meilleure représentation politique, il y a surtout une meilleure représentation sociale. Vous avez désormais des femmes de ménage qui sont députées, une pour du Val-de-Marne pour la France Insoumise, une autre dans la Drôme pour le Rassemblement National. Vous avez des professions comme chauffeur-livreur, tout cela, qui sont désormais à l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, je m'en réjouis profondément.
Oui, parce que c'était une des principales critiques qui était faite au scrutin majoritaire, c'est que des partis qui représentaient des millions de voix à l'élection présidentielle avaient une représentation peau de chagrin à l'Assemblée nationale.
Absolument. Il était tout à fait anormal que par exemple, entre 2017 et 2022, alors qu'en 2017, au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, à eux deux, avaient dépassé les 40% des suffrages exprimés, eh bien, il n'y avait, par un effet en cascade, en quelque sorte, des différents scrutins, il n'y avait plus que 4% des députés qui étaient issus soit de la France Insoumise, soit du Rassemblement National, enfin du Front National à l'époque. C'était quelque chose, c'était un biais terrible, et qui entraînait par ailleurs un biais sociologique. Il y avait quasiment plus que des cadres supérieurs, des professions libérales, etc. Ça a changé. C'est une bonne chose, et une des raisons d'ailleurs de phénomènes comme les gilets jaunes il y a quelques années, ça tenait aussi au fait que ces catégories ne se sentaient pas du tout représentées, et de fait, elles ne l'étaient pas à l'Assemblée nationale. Ça donc, c'est différent désormais. Il reste quand même que la possibilité d'une véritable crise politique, c'est-à-dire une situation où le gouvernement n'arrive pas à faire voter les lois. C'est quand même quelque chose qui devient très compliqué. Pendant 5 ans, il va quand même falloir gouverner ce pays. Et même si on n'est pas forcément favorable au projet macroniste, on est quand même un peu troublé par le fait que l'Assemblée nationale risque d'être avant tout un cumul d'opposition, que par ailleurs, la plupart des forces politiques n'ont aucune envie de lier leur sort à Emmanuel Macron, qui est impopulaire, qui ne pourra pas se représenter en 5 ans. Le phénomène d'alternance qui a porté la France insoumise et le Rassemblement national et qui a protégé un peu la droite, ce phénomène, ce désir d'alternance des Français, eh bien, n'incite pas du tout les députés à composer. C'est pour ça que la perspective d'une dissolution est tout à fait vraisemblable.
Et on verra effectivement assez rapidement dans quelle direction on s'oriente, vers une situation de blocage ou au contraire vers des coalitions de projets, puisque c'est un petit peu les scénarios qui se dessinent.
On le saura assez vite, mais c'est vrai qu'avoir un exécutif un peu paralysé par cette situation politique à l'Assemblée nationale n'est pas une excellente nouvelle dans une période où on peut s'attendre à des crises multiples et pas seulement économiques.
Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie pour avoir partagé vos analyses avec nous. Je rappelle que vous êtes sondeur, politologue, président de l'Institut Polling Vox. Et c'était la dernière émission de la saison. On vous remercie de l'avoir participé et on vous retrouvera, on espère, cette année ou l'année prochaine.
Merci à Radio Orient.
À très bientôt Jérôme, merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour cette deuxième partie d'émission, toujours consacrée à la poussée du Rassemblement national à l'occasion des dernières élections législatives, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Martin. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et coprésidente du comité scientifique de la revue. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Virginie, c'est est-ce qu'elle était si imprévisible que ça, cette percée électorale, puisque on en a parlé avec Jérôme Sainte-Marie, les sondages ont eu du mal à mesurer la capacité du Rassemblement national à faire élire presque une centaine de députés, 89. Est-ce que vous y attendiez ?
En tout cas, sur le terrain, c'est certain que de toute façon, le Rassemblement national est très ancré. On voit aujourd'hui qu'il se nationalise. Hein. Il était ancré typiquement dans le nord, dans l'est, le sud-est de la France. Aujourd'hui, il se nationalise très certainement et de manière aussi assez durable, hein, parce que ça fait déjà quelques années que l'on voit cette implantation grandir du point de vue géographique. Donc, bien entendu qu'on sent quelque chose de durable et de très ancré dans la tête des gens qui votent RN. Maintenant, bien sûr, toujours problème de ce mode de scrutin pour eux. Le mode de scrutin des législatives n'est pas favorable, c'est ce qui est répété sans cesse depuis des années, mais là, ils ont crevé, si je puis dire, une forme de plafond de verre sur ce scrutin majoritaire à deux tours qui, généralement, ne leur est pas favorable. Mais, évidemment, que Marine Le Pen, d'une certaine manière, a su transformer l'essai de sa présidentielle avec 13 millions d'électeurs pour elle quand même. Bah, quelque part, ça se retrouve logiquement, si je puis dire, dans les élections législatives, malgré ce mode de scrutin difficile.
Alors justement, le mode de scrutin était considéré comme difficilement franchissable par le Front National puis le Rassemblement National, en raison notamment du Front Républicain qui s'établissait quasiment systématiquement, en tout cas dans la plupart des circonscriptions, au second tour des élections législatives. Est-ce que vous diriez, comme certains le font, que eh bien c'est la fin, c'est la mort du Front Républicain et que d'une certaine manière, effectivement, il n'y a plus aujourd'hui de plafond de verre?
Non, c'est un peu plus compliqué que ça. D'une part, d'habitude, le RN, et donc anciennement le FN, n'avait pas d'alliés de second tour, n'avait pas de réserve de voix pour le second tour. Là, quelque part, la présence de Reconquête via Éric Zemmour les a beaucoup aidés, parce qu'ils avaient ici ou là des réserves de voix pour le deuxième tour, donc une dynamique. Et ça, ça a été aussi très important. C'est la première fois que l'on voit ça de manière, si vous voulez, constructive. Donc ça, c'est déjà la première chose très importante, il ne faut pas oublier cela, hein. Ça c'est vraiment capital. Après, sur la question du Front Républicain, c'est toujours ambigu, cette notion est ambiguë, parce que là, il est dit qu'il n'y a plus de Front Républicain ici ou là, mais il faut voir aussi que pour beaucoup de gens, la personne de Jean-Luc Mélenchon a joué aussi comme repoussoir de ce Front Républicain. Généralement, le Front Républicain se fait sur des personnalités moins marquées, moins radicales, et donc bah, ça joue bien, si vous voulez, ça fonctionne bien. Là, à force de personnaliser à outrance cette élection législative via la personne de Jean-Luc Mélenchon, ça a quand même aussi été le plafond de verre du regroupement NUP et donc de Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui a été à la fois la dynamique de ces législatives, mais en même temps la limite.
Alors, sur ce point, vous rejoignez l'analyse de Jérôme Sainte-Marie, hein, qui considère qu'effectivement, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, notamment par rapport à un électorat de droite traditionnel, a pu jouer et provoquer un vote vers le Rassemblement National. Mais, dit-il, les gens, y compris de la droite traditionnelle qui ont voté pour le Rassemblement National, eh bien, d'une certaine manière, c'est un peu un tabou qui tombe. Et donc, lui, il pense réellement que la notion de Front Républicain ou de barrage républicain, eh bien, s'est littéralement effondrée à l'occasion de ces élections législatives.
Je ne sais pas, parce que les gens qui votent RN ne sont pas forcément des gens de droite. Attention. Et pour la plupart, ils se sont abstenus. Donc on ne peut pas dire que cela fonctionne, puisqu'il y a plus de 72% de gens, notamment dans l'entourage de la présidence de la République, enfin des gens qui sont proches de Macron, qui se sont abstenus. Donc cette droite un peu classique, centre-droit, etc., non, elle ne va pas voter forcément au Rassemblement National. Elle s'abstient plutôt, et c'est comme cela que ça a favorisé le Rassemblement National. Il ne faut pas oublier cette mécanique de l'abstention par définition. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et après, les gens de droite, non, très peu se radicalisent. Ils vont se radicaliser vers Zemmour, qui veut l'union des droites. Mais Marine Le Pen, elle est plutôt au contraire, elle, sur quelque chose ni droite ni gauche, ou par-delà la droite et la gauche. Mais voilà, la France, le côté populaire, le pouvoir d'achat et tout ce genre de choses. Donc ce sont rarement des gens de droite traditionnelle qui finissent un peu à la Éric Ciotti d'être chez les Républicains et qui voudraient faire l'union des droites vers l'extrême droite aussi, comme l'appel de ses voeux Éric Zemmour. Le discours de Marine Le Pen n'est pas celui-là, et d'ailleurs elle pénètre beaucoup mieux les classes ouvrières, les anciens syndiqués, les classes précarisées, les gens qui sont avec des petits salaires, et c'est là-dedans qu'elle fait ses meilleurs scores. Ce n'est pas du tout un électorat de droite.
Alors justement, cet ancrage du Rassemblement National dans les territoires d'une part et dans aussi l'attraction du vote populaire, est-ce que ça peut lui permettre demain de franchir le nouveau plafond de verre qui est aujourd'hui le second tour de l'élection présidentielle?
C'est-à-dire que au-delà de la question du Front Républicain dont on vient de parler, de ce barrage, je pense de toute façon que la stratégie de Marine Le Pen est payante. Depuis une dizaine d'années, elle a récupéré la tête du parti lepéniste historique, et on voit bien qu'elle change véritablement la dynamique de ce parti, les thèmes, évidemment, on a beaucoup parlé de dédiabolisation, mais en même temps, elle porte des thèmes très différents. Elle travaille beaucoup sur la question sociale. Elle a, entre guillemets, gauchisé le discours de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, les gens très Rassemblement National historique l'ont quitté, lui ont tourné le dos. Donc n'oublions pas hein, cela, il y a aussi un vrai travail. Évidemment, il y a un travail cosmétique. C'est une femme, elle est plus jeune, elle ne s'appelle pas Jean-Marie, hein, avec le passé qu'on lui connaît. Donc bien entendu, tout ça édulcore beaucoup, beaucoup, beaucoup le Rassemblement National, mais on va voir quand même à l'épreuve des faits au sein de l'Assemblée nationale, là, ça sera l'épreuve de vérité, véritablement. Et après, oui, effectivement, pour l'élection présidentielle prochaine, on peut penser que là, elle aura réussi peut-être à casser le plafond de verre en France.
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la présence d'Éric Zemmour et du parti Reconquête, est-ce qu'elle a pu aussi, participer de cette dédiabolisation et de ce recentrage du Rassemblement National et donc peut-être aussi faciliter ces conquêtes de circonscription dans des proportions, rappelons-le, historiques, puisque jamais le parti est quand même issu de l'extrême droite, le Front National, ce parti du Rassemblement National, a atteint 89 députés.
Alors, bien sûr qu'Éric Zemmour a participé via ses outrances, son racisme décomplexé, son sexisme décomplexé, j'en passe, bien sûr, a normalisé d'une certaine manière Marine Le Pen, mais enfin, ça faisait longtemps aussi qu'elle avait entamé, si vous voulez, ce processus, elle de son côté. Donc quelque part, il arrive un peu en fin de course, il est utile, évidemment, pour conclure les dynamiques nouvelles que Marine Le Pen a voulu mettre dans son parti. Donc oui, bien sûr, quelque part, il l'a favorisé, mais il va falloir voir aussi qu'est-ce que lui va faire sur le futur. Et dans le futur, puisque son député met avec un petit peu d'argent sur l'élection présidentielle, que va décider Éric Zemmour pour l'avenir?
Alors, vous l'avez évoqué également, il y aura une attente aussi et on scrutera dans les semaines et les mois qui viennent, le positionnement du Rassemblement National, parce que historiquement, on connaît des prises de position sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, l'Europe. Bon, mais il y a des sujets sur lesquels on n'a jamais entendu ou très peu le Rassemblement National. Et là, sur les textes budgétaires, sur les textes qui vont arriver en débat, il faudra bien qu'ils soient dans des prises de position et surtout dans des expressions structurées.
Absolument, c'était tout à fait juste. Hein. C'est vraiment l'épreuve du réel, là. Et l'épreuve du réel dans la totalité hein, de ce qu'est un gouvernement, comme vous le dites très pertinemment. Déjà, on remarque une volonté d'institutionnalisation de la part de Marine Le Pen. Elle veut vraiment rendre ce parti politique responsable, à la hauteur des responsabilités au sein de l'Assemblée nationale. Elle veut jouer la construction, hein, vous avez vu, elle n'est pas du tout dans une position de principe systématique et radicalisée à l'égard du gouvernement. Donc, je pense qu'elle veut là aussi s'acheter encore un peu de respectabilité. Donc ça, c'est très important aussi, déjà dans l'attitude, et après dans le fond, il va falloir voir, hein. Mais c'est aussi la question, par exemple, de l'IVG. Est-ce qu'on le rentre dans la Constitution? Est-ce qu'on ne le rentre pas? Vous voyez, il y a aussi ces questions sociétales. Marine Le Pen a toujours été très discrète sur ces questions, contrairement, là encore une fois, à Marion Maréchal Le Pen ou à Éric Zemmour, hein, qui sont vraiment très traditionnalistes sur toutes les questions sociétales. Marine Le Pen l'est un peu moins. Elle ne s'est jamais trop exprimée sur le mariage pour tous, typiquement. D'ailleurs, beaucoup au sein de son parti lui ont reproché. Donc, est-ce qu'elle est dans un adjournement qui va finir par être crédible? Est-ce qu'elle va arriver à aller assez loin? Je ne sais pas trop. Le changement de nom est une chose importante aussi qui participe d'une coupure, d'une certaine manière, avec le passé. La figure de Jordan Bardella, qui est quand même, qui va prendre la tête du parti, est aussi une figure jeune, dynamique. Donc ça aussi, ça participe à un marketing politique et une communication politique plutôt favorable au Rassemblement National qui peut nous faire croire que ce parti va s'implanter durablement, surtout qu'il est couplé aux questions sociales et qu'il plaît aux plus précaires travailleurs, souvent français.
Dans un contexte en plus où, effectivement, on n'est plus très loin d'une crise économique qui ne dit pas son nom, avec le prix de l'énergie, la montée de l'inflation et l'installation aussi d'une situation internationale qui risque de perdurer, de faire perdurer ces phénomènes. Est-ce que vous diriez finalement que Marine Le Pen a réussi son pari de la dédiabolisation?
Ah, mais elle a réussi un pari personnel, politique, programmatique, partisan, contre vents et marées, puisque tout le monde était opposé à elle. Maintenant, la question aussi, c'est la question de la souveraineté du pays. Parce que vous le dites très bien, Alexis, avec la guerre en Ukraine, l'Europe, la Russie, toutes ces agressions qui viennent de l'extérieur, évidemment que les partis qui portent aussi une parole un peu de protectionnisme, et pour cela aussi la France insoumise séduit beaucoup pour les mêmes raisons, ceux qui se sentent très fragilisés par toutes ces agressions extérieures, l'ultra-globalisation, l'Europe à laquelle finalement on a l'impression souvent d'être soumis, tout ce genre de choses, bien sûr que la tentation du repli sur la nation est très forte, et la tentation du protectionnisme est très forte. La tentation d'aller rejeter l'Union européenne à Bruxelles et de la laisser tomber est très forte. Donc, bien entendu, à un moment donné, il y a aussi le localisme ou le protectionnisme versus la grande globalisation qui, évidemment, ne paye pas pour tout le monde et les plus précaires, typiquement. Quand on ne parle pas anglais aujourd'hui, qu'on n'est pas capable de faire un CV en anglais, qu'on n'est pas mobile à l'étranger, qu'on n'a pas l'argent pour être mobile à l'étranger, qu'on va être concurrencé par des entreprises qui vont nous demander toujours plus dans ce monde globalisé, évidemment que beaucoup de gens se sentent extrêmement fragilisés, précarisés, et ils se disent nos futurs, et quel sera le futur pour nos enfants?
Alors justement, ce sera ma dernière question pour parler justement de l'avenir. Et de cette nouvelle situation politique. Comment vous expliquez que depuis des années, beaucoup de discours politiques se construisent en référence et souvent en opposition au Front National puis au Rassemblement National, mais qu'en même temps, on n'a jamais, il n'y a jamais eu autant d'électeurs et ce parti, ce mouvement n'a jamais été aussi puissant?
Moi, je travaille sur le Front National. J'ai écrit mon premier livre sur le FN, on était en 95 ou 96. À l'époque, nous, politologues, on avertissait déjà en disant « Attention, c'est pas un vote protestataire, c'est un vote d'adhésion. » En tout cas, moi, je le disais, je l'ai écrit dans ma thèse à plusieurs reprises, en disant « Il y a de l'adhésion là-dedans. Il y a une adhésion complexe, il y a une adhésion qui est aussi nourrie par de la colère, bien entendu, mais il y a de l'adhésion. » Et donc, il a été de bon ton pendant 10 ans, 20 ans de dire « c'est pas grave, c'est de la protestation, n'en parlons pas, next, voilà, de toute façon, tous ces électeurs sont des fascistes, on passe. » Mais c'est faux aujourd'hui. Enfin, cette attitude est délétère, cette attitude a été délétère. Il fallait aller sur le terrain, parce que les sondages que vous faites passer par Internet, vous savez, ne vous donnent pas du tout le pouls du terrain, hein, contrairement aux travaux qualitatifs, quand on va vraiment dans les endroits, dans les maisons, dans les rues, et qu'on parle longtemps avec les gens, avec voilà des 2 heures, 3 heures d'entretien avec des gens typiquement qui votent FN ou autre chose. Et là, on comprend vraiment les motivations intrinsèques du vote. Et c'est ça notre travail qui est passionnant en tant que politologue. Et c'est ce travail-là que l'on doit faire, mais qui est moins fait qu'avant, parce qu'il coûte très cher aussi, parce qu'il est très lent, il peut être ingrat. Et donc, on a des résultats derrière, bah, évidemment, qui disent autre chose que la réalité, en fait, de terrain. Là-dessus, les réponses, elles sont simples. Mais faut-il encore poser les bons diagnostics? Et là, on voit encore sur cette législative, on voit encore que les diagnostics ne sont pas correctement posés. Et donc ça continue, business as usual, et voilà, l'extrême droite progressera encore en France tant qu'on ne voudra pas tout entendre et répondre correctement, c'est-à-dire les élus exemplaires, un gouvernement qui prend en compte des gens, les souffrances des Français, etc. Mais tout ça, on a décidé que ce n'était pas grave. Donc très bien, ben, ce n'est pas grave, et on se retrouve avec 89 députés RN à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup Virginie Martin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, coprésidente du comité scientifique de la revue politique et parlementaire. Et bien, on a eu le plaisir de vous accueillir dans l'émission pour la dernière émission de la saison.
Hein. Avec plaisir.
On se retrouvera, Virginie, on l'espère, à la rentrée avec vous et puis avec nos autres invités. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et donc, très bel été à vous toutes et tous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.